Bonjour David, bonjour à tous. Le niveau de circulation du virus et notamment du variant Omicron est actuellement très élevé en Nouvelle-Aquitaine avec un impact notable sur notre système hospitalier. La semaine dernière, plus de 125 000 nouveaux cas de Covid ont été identifiés en région, un nombre inégalé depuis le début de l'épidémie. Les taux d'incidence et de positivité sont très élevés. Le taux d'incidence est désormais supérieur à 2000 cas pour 100 000 habitants dans la grande région selon les chiffres de l'ARS communiqués hier. Et le taux de positivité est toujours en hausse. Le nombre de nouveaux décès hospitaliers repart également à la hausse avec 84 personnes décédées de la Covid à l'hôpital contre 73 lors de la dernière semaine de l'année 2021. Plus de la moitié avaient plus de 80 ans. Niort accueille en ce moment un candidat à la présidentielle de 2027. L'ex-premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, a en effet choisi la capitale de Sévrienne pour lancer son tour de France en vue de développer son nouveau parti Horizon dans un contexte tendu avec le président de la République.
La régulation du renard est indispensable pour les élevages ovins et avicoles.
C'est le message délivré par la Fédération départementale de chasse avec des témoignages d'éleveurs à l'appui. Le mois dernier, deux municipalités, en l'occurrence Mel et La Crèche, indiquaient leur souhait que le renard ne soit plus classé comme ésode, comprenez espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Or, le renard fait des ravages dans les élevages et pas seulement pendant les périodes de chasse, comme nous l'a indiqué Frédéric Audurier, coordinateur technique à la Fédération de chasse des Deux-Sèvres.
Le renard occasionne des dommages à des périodes en plus qui ne sont pas forcément celles de la période de chasse, puisque pour réguler le renard, on peut très bien le réguler en dehors de la période de chasse par d'autres moyens que sont le piégeage, par exemple, la vénerie sous terre, les battues administratives. Et ça, c'est son statut ésote qui donne ces possibilités-là. Les moyens de prévention qui peuvent être mis en place, clôture électrique, grillage, ne suffisent pas. Et qu'il faut arriver à trouver cet équilibre entre les pertes qui sont acceptables et le volet économique. Ce qui est important aussi, c'est que même des particuliers qui parfois subissent des dégâts dans leur poulailler pour 3, 4, 5 poules, c'est important de nous faire connaître, nous, soit la Fédération des chasseurs, soit la Chambre d'agriculture, de nous faire connaître les dommages pour qu'on ait un chiffrage un peu plus exhaustif que ce qu'on a aujourd'hui.
8 à 9 000 renards sont prélevés chaque année en Deux-Sèvres par la chasse ou le piégeage, mais cela n'empêche pas des dégâts dans les élevages de volailles et de moutons, comme peut en témoigner Damien Breton, éleveur ovin à la Chapelle Bertrand, qui déplore des pertes allant de 35 à 70 agneaux par an, une perte sèche car il n'y a pas d'indemnisation.
Le seul moyen de se protéger de ces dégâts, donc, c'est de réguler les renards par le piégeage. Donc je piège depuis quelques années et l'an dernier j'ai vraiment insisté là-dessus. Donc j'ai pris sur l'exploitation 20 renards. On est embêté donc avec cette prédation depuis très très longtemps. Déjà mon grand-père, ça existait déjà. De nombreux moyens ont été mis en place pour essayer de protéger les moutons. Ça peut être des clôtures électriques, grillage, radio, lumière, rien n'y fait. Les renards s'habituent très rapidement à ces protections. Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes vraiment des dégâts réels et surtout de l'importance des populations de renards sur le terrain. Ça entraîne des difficultés pour les productions qui sont locales, vertueuses d'environnement, avec une possibilité de dégradation de l'environnement si elles disparaissent.
Les élevages ovins permettent en effet de préserver les prairies essentielles dans notre paysage. Les renards y sont certes tolérés tant qu'ils ne commettent pas trop de dégâts.
Le centre-ville de Mauléon en pleine transformation.
La requalification des sites autour de l'abbaye et de l'hôtel de ville entraîne une série de travaux qui vont se poursuivre en 2022 et 2023. Cela crée des désagréments, mais cela devrait porter ses fruits pour l'avenir et pour l'attractivité de cette petite cité de caractère. Écoutez, Claire Pollic et Denis Prissé, tous deux sont adjoints au maire de Mauléon.
Nous avons engagé donc une politique de revitalisation de nos centres-bourgs et concernant Mauléon-Ville, nous nous concentrons autour du site de l'abbaye. Et là, nous commençons une phase de chantier qui va durer 2 ans, où nous allons donc réaménager le parvis de l'hôtel de ville, réaménager la place du renard, réaménager les jardins de l'abbaye et réaménager donc l'îlot central.
C'est quoi le projet finalement autour de cet îlot?
C'est de remettre du commerce dans notre cœur de bourg, hein, y intégrer sans doute, en tout cas c'est notre projet, peut-être une brasserie restauration, donc ça on est en train de travailler sur ce projet-là, une autre cellule commerciale, donc on veut vraiment faire de cet endroit un lieu de vie. où le patrimoine doit être remis en valeur et le patrimoine est au service du commerce aussi.
La ville de Mauléon enclenche donc des travaux pour développer l'attractivité et les porteurs de projets privés semblent leur emboîter le pas.
Au niveau des espaces publics, on a aussi un enjeu en termes de réaménagement, dans le sens où il faut aussi que le piétonnier, enfin le piéton s'y sente bien. Il faut y maintenir une fonction de stationnement justement en lien avec l'activité commerciale. Il faut verdir l'espace public parce qu'on est sur un site qui est assez minéral. Et on souhaite vraiment que notre centre-ville devienne un lieu où il fait bon vivre, où il fait bon entreprendre, où on a envie d'y implanter un commerce et qu'on vienne dans le centre-ville par choix.
Depuis qu'on a lancer tous ces projets, on est contacté de plus en plus à la mairie par des porteurs de projets. Investir dans le cœur de bourg de Mauléon, que ce soit pour du logement ou du commerce, en tout cas ça leur fait envie, donc nous on a envie d'accompagner tous ces gens-là. Alors effectivement là actuellement je peux quand même tirer un grand coup de chapeau aussi à tous les commerçants qui bossent actuellement dans le cœur de ville de Mauléon, parce que c'est un peu compliqué, il faut être très honnête. On compte sur tous les habitants mauléonais pour continuer à faire bosser les commerçants du centre.
Denis Prisset et Claire Polic à propos des travaux en centre-ville de Mauléon. Et puis à propos de commerce, saluons l'Union des commerçants de Cerisay qui remettait hier soir les lots de la vitrine de Noël. C'est Anaïs Stankovic qui décroche le lot de la vitrine de Noël d'une valeur de 1 837 €. Une vingtaine d'autres lots offerts par les commerçants, bons d'achat, panier garni, petit électroménager ont également été remis aux vainqueurs hier soir.
Le complexe cinématographique Bressuire et le fauteuil rouge inaugurent jeudi soir une nouvelle formule.
La formule que son directeur Frédéric Arnaud avait imaginée il y a déjà plusieurs années, à savoir donner carte blanche à une personnalité locale pour proposer un film de son choix sans que l'assistance ne soit au courant. Le titre n'étant en effet dévoilé que quelques instants avant la projection, après avoir quand même distillé quelques petits indices. En l'occurrence, c'était le film Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Et c'est donc Jean-Michel Bernier, ancien maire de Bressuire et ancien président de l'Aglo de B, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation du fauteuil rouge, qui a inauguré cette nouvelle formule, ce nouveau concept, devant une petite trentaine de spectateurs amateurs de films américains. Il a donc choisi Sur la route de Madison, réalisé par Clint Eastwood, et dans lequel ce dernier tient le premier rôle aux côtés de Meryl Streep. Jean-Michel Bernier.
Je ne suis pas un fan des films français, peut-être quand même un peu les comédies. Le reste, je pense qu'on se prend un peu trop la tête. Et j'adore Clint Eastwood, à la fois comme comédien, comme acteur et que comme metteur en scène. Et puis j'ai choisi parce que ce film, quand il est sorti en 95, m'avait interpellé, marqué même. Le fait aussi que pour Clint Eastwood, c'est presque un rôle en contemporain, parce que la plupart du temps, il y a beaucoup de violence même. Alors que là, tout est en tendresse. Là, j'ai redécouvert, parce que je l'avais vu qu'une fois, des dialogues et puis même certaines pensées philosophiques intéressantes. Meryl Streep, je la redécouvre aujourd'hui, elle est sensationnelle dans ce film-là, tout en l'expression des visages en particulier.
Tout en finesse, oui.
Vraiment un bon film, je ne regrette pas mon choix.
Jean-Michel Bernier, jeudi soir, après la projection du film Sur la route de Madison, long métrage qu'il avait donc choisi pour la première carte blanche A, nouveau concept trimestriel proposé par le cinéma Le Fauteuil Rouge. Rendez-vous donc désormais à la mi-avril avec une autre personnalité du bocage bressuré dont on ne connaît pas encore l'identité, mais le directeur du fauteuil nous a indiqué avoir déjà une petite idée à suivre. Donc restons au Fauteuil Rouge avec cette avant-première exceptionnelle demain. Les acteurs du film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu seront sur place pour présenter cette comédie à succès. Troisième volet, Noum Diawara, Emily Kan et le réalisateur Philippe de Chauvron sont annoncés pour la séance de 14h demain après-midi. C'est ce week-end que s'ouvre au château de Bressuire l'exposition du grand photographe reporter Olivier Jobard. Ce dernier a couvert de nombreux conflits en Croatie, Bosnie, Tchétchénie, Soudan, Irak, Afghanistan. Il a suivi la route des migrants et en particulier celle de Kingsley, âgé de 22 ans, qui avait décidé d'immigrer en France. Ensemble, ils vont suivre la route des migrants d'Afrique jusqu'en Europe et le résultat des clichés sont remarquables. Une soixantaine d'entre eux sont à découvrir tous les week-ends jusqu'au 6 février de 14h30 à 18h30 au château de Bressuire. Entrée libre, passe sanitaire et masque, bien entendu, obligatoire.
L'opérette de Troyes redémarre en coulisses ce week-end.
Jacques Offenbach est attendu à l'automne prochain avec son opérette La Grande Duchesse de Gerolstein. Une pièce musicale avec Foufrou Princier, un ou deux cocus magnifiques de circonstances et quelques grands airs au menu. Mais avant la scène, La Grande Duchesse va passer quelque temps en coulisses, c'est-à-dire que les répétitions démarrent ce week-end à l'invitation d'Arlette Guignon, la présidente du théâtre musical du Touet. Elle lance d'ailleurs une opération recrutement au micro-colline de notre correspondant en Touarçais, Dominique Hérault.
À ce stade, nous recherchons toujours des chanteurs. Nous cherchons également des personnes qui accepteraient de nous aider à l'atelier couture ou bien du bricolage pour monter les décors.
Cette année, l'opérette devrait capter un autre public grâce à l'action entreprise auprès des collégiens. Arlette Guignon, la présidente du théâtre musical du Touet, voit tous les intérêts croisés à ses visites dans les collèges.
On y va avec un chanteur ou une chanteuse qui leur explique comment on apprend un rôle. L'année dernière, ils avaient pris la griserie de la péricole et ils font comprendre aux collégiens comment on peut chanter la griserie de façon vulgaire, de façon plus fine. Les élèves découvrent un petit peu toute la finesse qu'il peut y avoir dans l'interprétation d'un rôle. En parallèle, nous, on va avec des costumes et les élèves essayent des costumes. Ils se promènent dans les beaux costumes de princesse. Il y a la façon de le chanter, mais il y a la façon de s'habiller, de marcher, la façon de jouer le personnage, qui doivent se compléter et qui doivent être en accord. Et ils comprennent ce qui se passe sur scène, que ça correspond à une volonté du metteur en scène. On fait pas n'importe quoi quand on monte un spectacle, que ça se travaille.
Conséquence directe, certains collégiens sont venus applaudir l'opérette l'an dernier. L'expérience doit se poursuivre. En attendant, les répétitions se déroulent tout ce week-end au local du théâtre musical du Touet, 9 rue d'Enfer Rochereau à Thouars, sous la protection du pass sanitaire et des consignes de précaution. Un contact pour tout renseignement supplémentaire, 05 49 70 02 62. Reportage signé Dominique Leroux.
L'actualité sportive ce matin.
Avec ce match de la peur hier soir pour le compte du championnat de basket élite. Deux formations en position de relégable s'affrontaient en effet. Le Portel recevait Cholet et pour les deux équipes, une victoire était impérative au risque de voir l'avenir en Pro B se dessiner. Et à ce jeu, c'est l'équipe des Mauges qui s'en est tirée puisque CB s'est imposé 85 à 69 grâce à une agressivité défensive, une belle présence au rebond défensif et un jeu rapide. Un cocktail qu'a salué à l'issue de la rencontre l'entraîneur de Cholet Basket, Laurent Villa.
Oui, on a réussi à se sortir de ce piège où on pensait vraiment que le match serait compliqué à jouer et on a réussi à faire ce qu'il fallait. On a eu une bonne conquête au rebond, on a eu beaucoup de relance, on a par moments vraiment très bien joué collectivement en faisant face à leur défense combinée qui permet pas forcément de faire des systèmes de jeu mais qui permet d'avoir de la diversité dans le jeu de fixation passe. On a eu beaucoup d'adresses aussi. Et c'est vrai que ce basket-là, cette efficacité qu'on a eue, nous a permis d'avoir un match à notre portée.
Belle et surtout importante victoire de Cholet Basket hier soir sur le parquet du Portel, 85 à 69. Toujours en basket en National 2 masculine, Niort accueille Laval. En National 3 féminine, les Choréziennes se déplacent à la Couronne. Et puis Bressuire reçoit le Poinçonnet. En National 3 masculine, Bressuire est en déplacement à Panazol. En football, les rencontres des Chamois et de Cholet sont reportées, je vous le rappelle. En National 3 Nouvelle-Aquitaine, Bressuire s'en va jouer au Lège Cap-Ferré, alors que la réserve de Niort se déplace à Tartassi. En Régional 1, match à domicile pour Choré face à Guéret et Chiré-Saint-Gelais se déplace à Fétia. Déplacement également de la réserve de Bressuire à Saint-Jean-d'Angély. Thouars et Neuil-Aubier jouent respectivement à domicile face à Montmorillon et Royan-Vaux. Et Niort-Saint-Florent se déplace à Poitiers. À suivre également ce week-end le quatrième tour de la Coupe des Deux-Sèvres. En handball, en National 1 féminine, Montcoutan se déplace à Angoulême. Calé à la 8e place, les handballeuses du SAM se déplacent chez les 5e pour ce retour à la compétition en principe, car avec le Covid, tout est possible. Émilien Larrière, son staff et ses joueuses l'ont appris à leurs dépens le week-end dernier avec une rencontre finalement reportée face à Bordes. Rocambolesque et pas facile sur le plan mental.
La semaine dernière, vendredi à 16h, on joue pas, je libère les filles pour leur week-end. Samedi matin, finalement, on apprend que le match a lieu par la fédération. Donc samedi à 10h, je remets un message à toutes mes joueuses, hop hop hop, on revient. Sauf que certaines étaient parties en week-end profiter de leur famille pour finalement apprendre à 14h que non, le match est vraiment reporté. Donc ce switch mental, je joue pas, je me prépare, je me prépare pas, c'est ça le plus compliqué. Il faut s'attendre à tout à chaque instant en fait. Je vais peut-être raccrocher, dans 5 minutes j'aurai un coup de fil comme quoi le match est reporté, donc il faut s'attendre à tout, que ce soit le staff ou les joueurs, mais il faut essayer de composer au mieux par rapport à ça. Et il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation et se préparer simplement à jouer. Et puis si on joue pas, ben, c'est pas grave, on rejouera plus tard.
Tout reste donc fragile, mais à l'heure où l'on se parle, Moncoutan jouera bien ce samedi à Angoulême. Angoulême qui ne perd que face au gros, autant dire que ce sera compliqué. Mais cette rencontre aura l'avantage de préparer le déplacement à Bergerac, un adversaire direct.
C'est une équipe qui a l'ambition de monter en D2 à terme. Donc c'est pas une petite équipe et jouer dans la salle de la Grand Fond. Je pense que personne peut se dire de manière sereine, je vais aller gagner à la Grand Fond. Donc ça sera un beau défi samedi. Et nous, ce qui nous importe, c'est de rejouer, de retrouver des repères collectifs, parce qu'on a un déplacement très important la semaine suivante à Bergerac, et c'est surtout celui-là qu'il faudra pas louper.
C'est bien d'avoir ce match à Angoulême pour le préparer, hein, ce déplacement à Bergerac, c'est pas mal dans le timing en tout cas.
Ouais, il faut absolument qu'on joue, c'est pour ça que je tiens absolument à ce qu'on joue ce week-end. Je dis pas que le résultat importera peu, parce qu'il faudra qu'on soit capable de tenir le match tout le longtemps possible, mais ce qu'il faut surtout, c'est être capable de rejouer, de retrouver des repères ensemble et de pouvoir se donner une semaine d'entraînement complète et totale pour aller affronter Bergerac derrière, parce que c'est cette équipe-là qui est proche de nous au classement.
Moncoutan à Angoulême, c'est donc ce soir pour le compte du championnat de National 1. En National 2 féminine, Celles-sur-Belle se déplace à Bléré, à suivre également ce week-end le 4e tour de la Coupe de France féminine et masculine. En volleyball, en National 2, déplacement de Niort à Saint-Cloud chez les filles et chez les garçons. Les Niortais reçoivent Royan-Sainte. Un petit mot de rugby en fédéral 1. Déplacement de Niort à Chartres en honneur promotion. Thouars accueille Clisson. En pré-fédéral 1, déplacement de Chauray à Maran. Et en régional 2, le COPS en va jouer à Poitiers. Et puis avant la météo, c'est une information relayée par la gendarmerie des Deux-Sèvres via leur page Facebook. Malgré les températures qui ne se prêtaient vraiment pas à ce genre d'exercice, à Moncoutan-sur-Sèvre, un individu a décidé jeudi dernier de célébrer la journée mondiale sans pantalon qui se tient tous les 13 janvier. C'est ainsi que vers 18h avant-hier, les gendarmes ont mis fin aux agissements de cet homme qui s'exhibait dans l'espace public, les attributs à l'air. L'histoire ne dit pas, comme le soulignait Coluche il y a quelques années dans l'un de ses sketchs, si à défaut d'avoir un bel engin, il attrapait une belle angine.